Monsieur Lhomme, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous parlez de traître ?
Eh bien, il nous est apparu au fil de notre enquête sur Emmanuel Macron qu'il était accusé par beaucoup de témoins et parfois des gens même qui sont proches de lui de ne pas avoir respecté ses promesses, soit des promesses relatives à son programme politique, soit des promesses personnelles, qu'il n'a pas été, on va dire, un ami fiable forcément dans toutes les situations. Et c'est vrai également donc au niveau politique, avec évidemment un modèle de trahison que tout le monde connaît, c'est-à-dire celle de François Hollande, qui était le président qu'il avait fait, entre guillemets, c'est le président qui l'avait aidé à devenir une personnalité politique majeure, et c'est pourtant ce même Macron qui l'a empêché de se représenter pour prendre sa place.
Certains disent qu'au moment où Emmanuel Macron s'apprêtait à conquérir l'Élysée, François Hollande était fini. C'est-à-dire, il était clair que si le président sortant allait se représenter, les Français n'auraient pas voté pour lui. Ne faut-il pas quand même reconnaître que face à une Marine Le Pen, Emmanuel Macron a sauvé la République?
Moi, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela pour une raison simple. C'est que, quel que soit le candidat ou la candidate issu d'un parti républicain qui aurait affronté Marine Le Pen, cette personne aurait gagné. Si vous aviez eu François Hollande ou François Fillon ou un écologiste face à Marine Le Pen, il est à peu près certain que Marine Le Pen aurait perdu. Dans tous les cas, on a bien vu ses limites lors du débat présidentiel. Et par ailleurs, l'extrême droite, à cette époque-là, en tous les cas, était incapable de réunir plus de 50% des voix.
Monsieur Lhomme, comment Emmanuel Macron a-t-il réussi à faire en sorte que ses idées pèse dans le débat public et a ancré le mouvement En Marche dans la société française?
Je pense que sur le premier point, c'est une réussite incontestable d'Emmanuel Macron. C'est un homme d'abord très intelligent, il ne faut jamais l'oublier, extrêmement intelligent, qui avait une vision très claire de où était la France, notamment politiquement en 2017. Donc c'est vrai qu'il a su construire une offre politique en apparence, en tout cas très moderne, très, très avant-gardiste, et il a senti que la société française était prête, j'allais dire, à prendre le risque de voter pour quelqu'un qui ne venait pas des partis habituels, qui n'avait pas un positionnement habituel. Sur le parti, en revanche, là, c'est un échec, mais je pense que c'est un échec qui ne le dérange pas du tout. C'est-à-dire que son parti a totalement échoué à s'ancrer, justement, dans le paysage français, dans les cœurs des Français. Les gens ne savent toujours pas ce que c'est exactement la République en marche. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de leader vraiment charismatique. Mais Emmanuel Macron, il pense que c'est secondaire, cela. Lui, ce qui compte, c'est qu'il y ait un parti qui soit, j'allais dire, à sa botte, entre guillemets, qui vote ses lois à l'Assemblée, etc. Et de ce point de vue-là, il a réussi. Pour lui, les partis ne sont pas importants. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est ça la révolution Macron, c'est de dire les partis n'ont plus beaucoup d'intérêt.
Dans quelle mesure Emmanuel Macron représente le néant ?
Alors, le néant, un mouvement politique, normalement, apporte des idées. Or, Macron, lui, là encore, a révolutionné un petit peu les choses en disant « Mais non, il n'y a pas d'idées préconçues à avoir, il faut s'adapter, il faut être pragmatique. » Il faut être pragmatique. Donc c'est intéressant, pourquoi pas, c'est un peu très nouveau, les Français n'ont pas l'habitude de ça, nous sommes un peuple très politique, je pense que ça peut fonctionner à court terme, mais à terme, il faut donner une vision et un cap, et c'est ce qui manque beaucoup. Et ça, c'est dangereux, c'est pas dangereux pour Macron, c'est dangereux pour le pays, parce qu'à un moment, les gens se sentent déboussolés, ce qui est le cas actuellement, et ce n'est pas par hasard si, encore une fois, l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante dans ce pays. Aujourd'hui, c'est presque, au premier tour, ça serait presque l'addition des voix d'extrême droite, c'est plus d'un tiers des voix. C'est jamais arrivé quand même, et c'est très préoccupant.
Vous avez écrit en Macronie, le marketing précède l'idéologie, voire s'y substitue. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, on assume chez les macronistes le fait de ne pas avoir une idéologie, de ne pas se revendiquer comme plutôt de droite, plutôt de gauche, etc. Et qu'on est dans ce qu'on appelle le « en même temps », qui parfois veut dire tout et son contraire. Je suis en même temps pour les chasseurs et je suis en même temps pour les écologistes. Je suis en même temps pour les migrants et en même temps je suis contre le fait qu'il y ait une immigration trop importante, etc. Tout est comme ça. Donc tout ça fait que on voit bien qu'au niveau idéologique, on ne peut pas cerner la République en marche. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail, surtout en 2016-2017, en termes de marketing, oui. Et la politique, c'est aussi du marketing. Ils ne sont pas les seuls à le faire, tout le monde fait du marketing. Et là, le marketing était très important sur le thème l'homme disruptif, l'homme jeune, l'homme moderne, l'homme qui va envoyer paître les gens qui représentent le vieux monde, alors que lui représenterait le nouveau monde. Tout ça, c'est des éléments de marketing politique. Si on met en regard, d'un côté, cet aspect marketing qui est très développé, qui a été très développé autour de Macron, et sur le fond, les idées et la cohérence des idées, on voit qu'il y a un décalage énorme. Voilà.
Est-ce qu'il y a un rapport entre la politique de privatisation du secrétaire général adjoint de l'Élysée et du ministre de l'économie, Macron, et le financement de sa campagne présidentielle ?
Alors oui, il y a un rapport, c'est le fait que parmi des personnes qui ont bénéficié de ventes d'entreprises stratégiques françaises à l'étranger, notamment des intermédiaires qui ont pris des commissions, il y a des gens, non seulement avec qui Macron a travaillé à la Banque Rothschild, mais des gens qui ensuite sont devenus des financiers de sa campagne présidentielle. Ces opérations se sont passées a priori de manière légale, mais elles interrogent tout de même. C'est normal de poser des questions, nous sommes là pour ça, nous journalistes, et de se demander est-ce qu'on a vraiment vendu ces entreprises pour de bonnes raisons? Est-ce que c'était pour faire plaisir à des gens ou pour rendre service au pays? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enquêtes judiciaires sur ces faits-là, et il y a des responsables politiques de droite, notamment un député qui s'appelle Olivier Marleix, qui parle carrément de délits, de malversations, de pactes de corruption.
Est-ce que vous croyez que ces révélations vont peser dans la campagne 2022 ?
Je ne sais pas. Vous savez, quand on publie des informations, et notamment un livre, on ne sait jamais exactement à quel point ça peut marquer l'opinion publique. Notre livre est un best-seller. On approche maintenant des 100 000 exemplaires, ce qui, pour un livre politique, est assez rare. Je pense que notre livre intéresse beaucoup parce qu'il présente Macron sous un jour un petit peu nouveau et répond à la question que se pose, je pense, la plupart de nos concitoyens. Qui est cet homme et quel est son mouvement politique? Que veut-il faire? Tout ça n'est pas clair du tout.
Monsieur Lhomme, pourquoi le président n'a pas répondu favorablement à vos multiples demandes d'interview?
Pour une raison toute simple et qui est respectable, c'est que je pense qu'il estime n'avoir rien à gagner à voir des journalistes comme Gérard Davet ou moi-même. Il a fait toute sa stratégie de communication en prenant comme modèle inverse ce qu'a fait François Hollande durant son mandat, et notamment ce qu'a fait François Hollande avec Gérard Davet et moi-même, c'est-à-dire de nous rencontrer régulièrement, de nous faire beaucoup de confidences, de nous donner beaucoup de phrases très fortes, etc. Emmanuel Macron, quand il est arrivé à l'Élysée, a dit: vous voyez ce que François Hollande a fait, il faut faire exactement l'inverse. Parce que lui se méfie beaucoup des médias, et c'est en ce sens qu'il a un petit aspect, comme le raconte Pierre Moscovici, il y a un petit aspect populiste chez Macron, notamment le fait de dire que les médias, attention, c'est dangereux, il faut s'en méfier, etc. Il faut faire attention en disant cela, parce qu'après, vous aboutissez à des Donald Trump ou à des Bolsonaro.
Fabrice Lhomme, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi, merci à vous.